La première réflexion que je voudrais vous apporter, c'est dans un propos pour progresser dans la réflexion sur les paroles du Saint-Esprit aux sept églises en Apocalypse. Je voudrais démarrer sur Romains 8:13. Romains 8:13, c'est une parole qui est un petit peu sur laquelle on passe trop vite, comme toujours. Il nous faut toute une vie pour rentrer dans la parole. Et encore, quand on sera au ciel, on sera face à la parole incarnée. On sera face à Christ, la parole vivante. Dans Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est ainsi que, par exemple, un roi de France se flagellait continuellement. Hein? Le roi Saint-Louis, il se flagellait, il prenait quelqu'un. Mais on voit ça, par exemple, Ignace de Loyola mettait des corsets de crin, il se serrait avec du crin de cheval, etc. Sainte Thérèse de Lisieux, toute sa prière, c'était de souffrir et de souffrir, toujours souffrir, mieux pour ressembler à Christ. Et puis, il y a en Espagne, tous les ans, des gars qui portent des croix et qui même qui se font crucifier en Philippines, parce que ça vient de l'Espagne, évidemment, tout ça. Et puis, vous voyez chez les chiites, en Iran et dans une partie de l'Irak, on se flagelle, on se saigne, etc. Bon, toutes ces histoires existent partout. Vous allez à Fatima, au Portugal, ils marchent pendant des kilomètres sur les genoux, en sang dans les cailloux. Hein? Et hier, il y a un homme qui me disait, il était né en Bretagne, et bien, quand il était enfant, la chose qu'il avait la plus horrible, à 8-10 ans, c'était le chemin de croix. Il y a des chemins de croix partout en Bretagne. Hein? Mais il y en avait ici aussi avant. Ils ont été pris et débarqués ici, mais là-bas, on les voit encore. Hein? Ça fait partie du patrimoine, comme on appelle ça. La France appelle ça. Pauvre patrimoine. Et pratiquement, on marchait d'une station à l'autre sur des kilomètres à genoux. Tout le monde, en Bretagne. Voilà, de quoi dégoûter de la croix. Et ici, donc, c'est un message qui a été travesti. Pour essayer de mériter le salut, il fallait faire mourir la chair, se faire souffrir. D'où l'idée de célibat pour les bonnes sœurs, de célibat pour les prêtres, etc., etc. Ou, on disait au confessionnal, dans la population catholique, vous n'avez de relations sexuelles que pour faire des enfants, tout le reste est interdit. Alors, bien sûr, madame ou monsieur arrivait au confessionnal en disant, je demande pardon au Seigneur parce que nous avons eu des relations sexuelles, mais ce n'était pas pour avoir des enfants. D'où l'idée de la transgression sexuelle, le péché d'Adam et Ève, c'est de la transgression sexuelle. De l'invention pure et simple. Ce n'est même pas biblique. Mais vous voyez, d'où l'idée, puisque je suis chrétien, je vais offrir mon corps pour la patrie. Allons-y dans les tranchées à Verdun et dans la Somme. Chlac, chlac. Pendant 4 ans de chaque côté. Good mitouns. Tout ça, ça devient des déviations du diable. C'est pas chrétien. C'est du faux christianisme, c'est de l'apostasie. Mais que veut dire ce verset? Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, donc humainement, avec vos instincts, vos tendances, et le péché d'Adam et Ève en vous, vous mourrez, c'est-à-dire vous êtes séparés éternellement de Dieu. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, si, puisque vous êtes repenti, vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous savez qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il a payé votre dette, rappelez-vous ce que Vincent a dit, et bien pratiquement ce qui se passe, si vous acceptez d'être conduit par l'Esprit Saint continuellement, vous êtes dans la vie, donc vous êtes certain de vivre éternellement, vous vivrez. Hein? Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, si vous restez fidèle à l'œuvre du Saint-Esprit, fidèle à la parole, il y a un combat à mener contre cette tendance charnelle et pourrie qui est en nous, mauvaise, malhonnête envers Dieu, et vous restez dans la vie, et vous êtes certain d'arriver au but, à la réussite, à l'héritage. Rappelez-vous ce qui a été dit avant par Vincent. Donc au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le vrai fils de Dieu, c'est quand celui qui il arrive au bout, la fille de Dieu, au bout en face de Dieu, en ayant obéi à la parole et l'avoir vécu jusqu'au bout. Donc il n'est pas question de dire je suis baptisé, je suis sauvé. Il n'est pas question de dire j'ai chassé des démons et ça a marché. J'ai prié pour quelqu'un, il est guéri, ça a marché. Non! Matthieu 7, 21, Jésus l'a dit, vous m'avez dit Seigneur, 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 mais quand je reviendrai, voici, je dirai arrière de moi, je ne vous ai pas connu, parce que vous avez vécu dans l'iniquité, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Donc, réellement, ce qui plaît à Dieu et à Christ, c'est de faire la volonté du Père, c'est de vivre dans la parole, de demeurer dans la parole. Celui qui demeure dans la parole demeure en moi. C'est clair. Faire mourir les œuvres de la chair, c'est faire mourir l'œuvre du péché. Mais ce n'est pas se donner des coups de flagellation, etc., et marcher à genoux sur des cailloux. Ça, c'est des trucs de névrose religieuse. Rien de plus. Ou de folie du diable. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que nous devons apporter tous les jours un combat contre notre nature pécheresse, et que le péché doit être vaincu. C'est notre mission. La vie du péché doit disparaître de notre vie, mais elle revient toujours à la charge, mais c'est un combat. Il faut porter sa croix, c'est-à-dire c'est un combat très difficile où ma vieille nature d'Adam, quand je serai en face de Dieu, il faut qu'elle soit là. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit me dirige, me guide, me purifie, m'éclaire, parce que j'en sortirai pas tout seul. L'Esprit Saint vient en aide à ma faiblesse. C'est important. Ça, c'était un préambule. Pourquoi ? Parce que nous avons dans l'Apocalypse un récit, et c'est fort important, nous y allons tout de suite à l'Apocalypse, qui est majeur pour nous aujourd'hui, qui est d'une grande importance. Je ne parle pas des tribulations. Les tribulations, c'est pour ceux qui sont dans l'apostasie déjà maintenant, et qui veulent y rester. À partir du chapitre 2, jusqu'à la fin du chapitre 3, vous avez sept églises, sept communautés d'un type spécial. À la fin du premier siècle, lorsque cette révélation est faite à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il n'y a pas l'église de Constantin, il n'y a pas eu Constantin, il n'y a pas d'empereur qui a nommé des évêques. Il n'y a pas de concile qui a été convoqué par des empereurs qui se disaient évêques ou apôtres en même temps. Il n'y a que des communautés évangéliques. Alors j'essaye de mettre les pendules à l'heure, ouvrez bien vos oreilles pour que ça reste toute votre vie. C'est un message à des églises évangéliques, aux sept églises-là. Ce n'est pas les églises que vous voyez à travers le monde, de la chrétienté, qui ne s'intéresse plus tellement à Jésus-Christ ni à sa parole, qui vit dans un rite, une tradition, etc. Sans Christ. Vous savez très bien que dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, il est dit que celui qui retire quelque chose de la parole de Dieu, il ne va pas être avec le Seigneur. Ou celui qui ajoute quelque chose. On verra tout à l'heure le verset. Donc, la plupart des grandes églises que vous avez sur la terre ont ajouté et retranché. Il n'y a pas à douter, elles seront dans la tribulation. Énormément de populations qui se disent chrétiennes vont connaître les tribulations sous l'Antichrist. Et là-dedans, il y en a quelques-uns qui vont se réveiller. Et aussi dans le judaïsme, dans l'islam, il y a des gens qui vont se réveiller à la vraie foi, sous les coups répétés de Satan. Et qu'il ne sera pas tendre avec eux. Maintenant, puisque à la fin du premier siècle, toutes ces églises ne correspondent à aucune église que vous voyez aujourd'hui dans la société, que ce sont que des communautés qui vivent alentour d'hommes mariés, responsables, etc., et qui ont la parole de Dieu, comme centrale, ce sont des églises évangéliques. Donc le message de cette église s'adresse à des églises évangéliques. Ça n'empêche pas de vouloir peut-être l'envoyer, l'injecter dans les églises classiques pour qu'elles se réveillent, évidemment. Mais en tout cas, il faut savoir une chose. Nous sommes visés en premier lieu par ces chapitres. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, vous avez toujours une prière. Dieu est celui qui est, qui était, qui a été, qui sera et qui vient. À un moment donné, il y a un changement dans l'Apocalypse. Il y a tout d'un coup, il n'y a plus le mot « qui vient ». C'est celui qui était, qui a été, qui était, qui sera, mais pas le mot qui vient. Pourquoi ? Ah ! Parce qu'à partir du chapitre 4, il y a eu un changement dans l'histoire des hommes. Il y a eu un changement. Le chapitre 4 et 5, c'est une vision du ciel pour voir l'autorité de Dieu et tout ce qui s'y passe. Mais à un moment donné, à partir du chapitre 6, c'est les sceaux. Et puis après, ça sera les trompettes, etc. C'est chaque fois des interventions magistrales de Dieu sur un monde pourri. Sans l'Église. Sans les vrais chrétiens. Un monde dirigé par Satan pendant 7 ans. Et ça se termine, ça va du chapitre 6, ça se termine au chapitre... je pense 18, oui. Chapitre 18, verset 19. Ça, c'est le grand souk de Satan. Après, il y a, à partir du chapitre 18, verset 20, de grandes bénédictions. Il y a un nouveau monde qui apparaît. Le royaume de Dieu va être instauré. Le Christ établit sur sa terre toute son autorité et il y a des paroles dans cette église, au chapitre 2 et 3, qui s'adressent à nous. Et à partir du chapitre 18 à 20, il y a des paroles qui s'adressent à ceux qui aiment Christ et qui veulent vraiment vivre de lui aujourd'hui et échapper aux tribulations. Et après ce préambule, je voudrais vous dire qu'on va regarder chaque fois ce que l'Esprit Saint dit. Ah ben oui, on s'intéresse, c'était la Pentecôte. Et pas seulement parce que c'était la Pentecôte il y a quelques jours, mais c'est parce que aussi il y a eu Pâques. Et quand on voit à Pâques que Jésus, 40 jours après, monte au ciel et dit « Vous recevrez l'Esprit Saint, restez à Jérusalem. » Ça veut dire quoi l'Esprit Saint? On ne va pas toujours penser au contexte actuel chez les évangéliques, le débat entre les dons des langues, etc., ceux qui se roulent par terre ou ceux qui n'y croient pas, ça c'est un attrape-nigo pour nous intéresser à des choses secondaires. Les vraies choses importantes, c'est le retour de Christ, c'est être prêt, c'est recevoir la robe. C'est ça l'important. Ne laissons pas séduire et distraire par des querelles qui ne seront que passagères. Alors, vous avez, chapitre 18, verset 20, la condamnation de la grande Babylone, de cette grande société de tricherie. Hein, au chapitre 19, donc au chapitre 18, et bien sûr, qui ont mis à bout des gens convertis, qui les ont saignés, qui les ont tués, massacrés, c'est clair. Au chapitre 19, on a le jugement de la grande prostituée qui corrompait le monde. Hein, et c'est, au chapitre 19, on le voit, alléluia, le salut et la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Donc, les autorités célestes descendent sur le ciel et sur la terre. Et au chapitre 18, verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Dieu vous a fait justice en jugeant ce monde de fous dirigé par Satan pendant les 7 années est jugé. C'est pour ça que je dis que c'est des paroles à partir du 18-20 qui s'adressent aux chrétiens fidèles à l'œuvre du Saint-Esprit et à sa parole. Je ne dis pas tous les chrétiens. Il y a le blé livré, il y a les brebis et les boucs. Il y a ceux qui ont des lampes avec de l'huile et que c'est allumé. Il y a des autres qui ont de la lampe et pas d'huile. Il n'y a rien d'allumé. Je ne dis pas tous les chrétiens, je dis ceux qui sont conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Jésus, je vous le répète, l'a dit, Matthieu 7,21, « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Je n'ai pas fait la volonté de mon Père. » Donc, il est clair que nous avons des avertissements extrêmement sérieux et par amour que Dieu nous les donne à l'avance. On se méfie de vivre dans l'apostasie et le mensonge. Alors, le grand mariage dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, c'est au chapitre 19. Regardez bien. Verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Recevoir la robe, c'est la reconnaissance, l'approbation divine de Christ en face de moi qui met la robe, comme lui il l'a, pour me dire, tu as été fidèle. Et j'achève en toi ce que tu as commencé. J'achève en toi ce que l'Esprit Saint avait fait et qui n'est pas fini. Parce que ce ne sont que des gages, des prémices, des arts. J'achève. J'ai toute l'autorité pour l'achever en toi. Parce que tu as été d'accord que je le fasse en toi, déjà dans cette période où tu devais combattre ton péché. Tu m'as montré ta bonne volonté, ta bonne disposition, ta soumission à l'œuvre du Saint-Esprit et à la parole. Et moi, j'achève en toi ce qui est commencé. Donc, les quelques pains que tu as, les quelques poissons, je les multiplie. La tempête dans laquelle ton cœur a été souvent, je l'écrabouille. Il n'y a plus de tempête dans ta vie. C'est ça, la vie glorieuse en Christ. Alors, nous devons voir où le Saint-Esprit a parlé dans les chapitres, les derniers chapitres de l'Apocalypse, et nous retournerons aux églises après. Eh bien, il y a une béatitude au chapitre 20, au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Or, la première résurrection se fait quand ? Avant les tribulations, avant les sept années, quand Christ vient enlever les saints, enlever ceux qui ont été fidèles, un peu comme quand Noé est enlevé dans l'arche, pour échapper au déluge, pour échapper à l'Antichrist et échapper aux tribulations, Christ vient enlever cette église, vient les prendre, ça s'appelle l'enlèvement de l'église, et ceux qui étaient morts, qui avaient été dans la foi, ressuscitent et sont enlevés avec. Il y a des textes dans Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et 5, pour l'expliquer. Alors, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, bien, c'est le jugement final, la condamnation pour être mis en enfer. Ils y échappent. Non, ça ne les concerne pas. Ça concerne tous ceux qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas aimé et suivi Christ. Alors, c'est une parole extrêmement importante parce que c'est comme dans les béatitudes. Heureux les affligés, heureux les persécutés. Vous serez consolés, vous verrez Dieu. Ça correspond à ça. Ça correspond au chapitre 19 et 20, l'Apocalypse. Les béatitudes du chapitre 5 de Matthieu correspondent à la finalité de l'Église. Alors, que dit l'Esprit Saint ? Je regarde un peu peut-être mes notes, mais enfin, pas toujours facile. Il y a dans la parole de Dieu, ici, vers la fin de la Bible, des paroles extrêmement importantes qui ne sont pas des paroles en l'air. Chapitre 22, verset 6. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pour montrer à ses serviteurs, donc ceux qui servent Christ, ceux qui sont engagés dans le ministère de Christ sur terre, ont une révélation. Et Dieu avait envoyé les prophètes, animé des esprits des prophètes, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que dit cette parole? Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il faut donc être au clair sur la finalité de notre histoire humaine, sur ce qui va arriver. Il faut faire confiance à Dieu, il faut avoir une vision claire. Il ne faut pas que la voiture, il y ait de la boue sur le pare-brise, on ne voit plus où on va. Marie-Hélène, un jour, a eu un accident terrible, derrière un dos d'âne, à Montargis, dans le Loiret. Il y avait une trompe d'eau qui tombait, c'est comme des rivières qui sortent du ciel, c'est pas de la pluie. Et tous les champs des vallées, il y avait ça d'eau et de boue des champs, sur la route. Un gros camion passe, toute la terre vient sur l'auto, on ne voit plus rien, les essuie-glaces ne suivent pas, la voiture flotte, et derrière une grosse camionnette d'ouvriers chargée, et collision frontale. Voiture en bouillie, on ne peut pas voir avec un pare-brise rempli de boue. Ce n'est pas le plan de Dieu que vous soyez des chrétiens avec un pare-brise rempli de boue. Ce n'est pas le plan de Dieu que vous ayez des yeux fermés par de l'infection. Vous savez très bien que dans une église, là, au chapitre 3, l'église de la Laodicée dit « Je voudrais bien vous mettre du collyre dans les yeux pour que vous voyez. » Ce n'est pas dans le plan de Dieu que les chrétiens, les disciples de Jésus, à l'heure d'aujourd'hui, soient aussi aveugles que le monde. Ou alors c'est qu'un problème. Ou pire, parfois. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'eus entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il toujours se référer au livre, aux prophètes, à l'esprit de prophétie. L'ange n'est qu'au service du Saint-Esprit et de la parole. Ok ? Et quelle est la mission de Jean, comme tous les chrétiens ? Regardez ce qu'il dit. Adore Dieu. Adore Dieu. Une des premières conditions, les amis, de notre vie, c'est pas de bouffer. C'est pas d'aller au lit, c'est pas d'aller travailler ou d'avoir sa pension. C'est adorer Dieu. La première condition, et rappelez-vous, Paul est peut-être dur quand il dit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice, amour selon Saint-Esprit. Servions même la priorité de vrais chrétiens, c'est l'adoration de Dieu. Il n'attend plus rien du monde. Sachez bien que dans Hébreux chapitre 11, Abraham attendait la cité dont l'architecte est divin et céleste, parce qu'il n'attendait plus rien de ce monde. Quand vous perdez du temps à parler de la société, de ses crises, de ses ministres, et ça, c'est parce que vous vous laissez distraire. Ce monde est condamné. Si vous voulez être condamné, regardez trop le monde, comme la femme de Lot. Vous resterez seul, vous resterez dans le monde, vos tribulations. Si vous voulez aller avec Dieu, laissez-vous conduire par Dieu, vers Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Alors, nous allons un peu plus loin dans ce texte, au verset 17. Et là, c'est le thème majeur de l'Esprit Saint, puisque nous sommes orientés vers la réflexion vers l'Esprit Saint. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Donc, d'une manière puissante, évidente, Dieu dans le cœur des croyants à la fin du temps, des vrais croyants à la fin du temps, l'Esprit Saint pousse ces gens-là en tant qu'épouse, pas chrétien individualiste, et pseudo-chrétien, moitié égoïste ou moitié chrétien, épouse. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment marié. Il a scellé par une alliance, par le sang de Jésus, et qui a donné toute sa volonté et son cœur à Jésus. C'est ça l'épouse. L'Esprit Saint et l'épouse disent « Viens ». Il y a une communion, il y a une vie intérieure d'attente de la venue en gloire de Jésus. Ça fait partie de la foi intégralement. Celui qui entend dise « Viens ». Donc voilà que notre apôtre Jean dit « Vous, dans les églises là-bas, hein, vous les responsables, vous partez, les sept messagers, vous allez leur dire, vous entendez ce que je vous ai dit, vous entendez ce que Dieu m'a dit de vous dire, eh bien que celui qui entend dise « Viens ». Allez, tous, viens Seigneur Jésus. Nous terminerons ce temps en le disant ensemble, pour ceux qui le veulent. Que celui qui a soif vienne. Vienne à quoi? À cette attente, à une vraie attente. Quand je me mets au bord de la route devant le poteau jaune, j'attends le bus, j'ai regardé l'horaire, je prends le bus. Quand je vais au boulot à telle heure, il faut que j'y aille. Ben, si je suis convaincu que Jésus va venir, il faut que j'aille au rendez-vous. Pas que je fasse semblant, comme tout de même. C'est tout le thème de la lampe avec l'huile. Je me prépare pour qu'il vienne. Alors, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, celui qui veut rencontrer le Seigneur en tant qu'épouse, il doit prendre de l'eau de la vie. C'est le Saint-Esprit, l'eau de la vie. Vous savez très bien que dans Jean chapitre 8, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive coulent de son sein, le Saint-Esprit. Alors, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Il est clairement expliqué là que même si j'attends le retour de Jésus, je crois en Jésus. Je fais partie d'une église qui accepte les conciles à partir de Constantin. J'accepte toutes les hérésies qui ont été pondues dans toutes les organisations chrétiennes. Je ferai partie des tribulations. Du chapitre 6 au chapitre 18, verset 19. Je vais aller dans le grand bastringue. Et je passerai par le feu. Je passerai par les tribulations, par le feu. Et ce qui a été déformé, n'est-ce pas, c'est que le moine Tetzel, qui était au service de la construction du temple de Saint-Pierre à Rome, le feu, il a inventé le purgatoire. Et le pape a trouvé que c'était intéressant, le purgatoire, les gens en ont eu peur. Et puis on a vendu des indulgences, c'est-à-dire 3 jours de purgatoire en moins, 3000 euros. 15 jours ou 3 mois de purgatoire en moins, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, va y retour. Et toutes les églises mettent dans le tronc. Hein? Et puis si tu veux 300 ou 500 jours en moins, donne tout tes biens. Mets une soutane, renonce à ta femme et fais-toi moine. On a enrichi l'église, le moine Tetzel a transformé les paroles de la Bible en un purgatoire avec des indulgences et du business, du fric, basé sur la peur, pas sur la foi. Alors, vous voyez que les églises qui ont ajouté quelque chose, les chrétiens qui ont ajouté quelque chose, peut-être même ici, eh bien, on connaît les fléaux. Il faut se faire secouer dans tous les sens, comme dans la machine à laver, là. Pendant cette année, pour voir un petit peu. Tu as envie que je te purifie, là? Tu as envie de passer à travers tout ça? Mais tu vas voir. Après, tu seras peut-être propre, si tu as accepté. Mais si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de livre, de cette prophétie, si quelqu'un retire, eh bien, figurez-vous que ça existe aussi, ça. Il y a énormément d'églises qui disent qu'il n'y aura plus de retour de Christ et qu'il n'y a pas de millénium, pas de règne de Christ. Voilà un exemple. Au moins 90% de la chrétienté dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il a mis? Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranche sa part de l'arbre de vie et de la vie de saint. Pas de vie éternelle, pas de royaume de Christ. Donc, il décède, il attend la résurrection, la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, des désobéissants. Il subit le jugement final, il va en enfer. Si vous avez vu le canevas de l'Apocalypse, le canevas de la révélation de l'apôtre Jean, vous voyez la pensée de Dieu pour ce qui va arriver. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, puisque l'Esprit Saint, chapitre 22, verset 17, c'est un verset extrêmement important, Parce qu'on voit l'union d'âme et de cœur et de pensée de Dieu, Dieu le Saint-Esprit, de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens, tout de même il n'y en a pas trois, de Dieu et de son épouse, de ceux qui sont vraiment convertis et qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, qui aiment la venue de Jésus et qui l'attendent. Eh bien, il n'y a rien de retranché, rien d'ajouté. Donc c'est des églises évangéliques. Donc c'est ce que je disais bien, à la fin du premier siècle, quand il y a eu la révélation, ça s'adresse rien qu'à des églises de type évangélique, et les églises apostates ne sont déjà plus concernées, puisqu'elles ont retiré et retranché. Mais tout de même, quelqu'un qui fait partie d'une grande église peut lire ceci et se dire, « Ouh là là, il est temps que je change. Il est temps que je me sauve du... »
La vérité coule.
Oui, Titanic. Le commandant, quand le bateau est parti, le Titanic, il a dit, « Même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau-là. » Quelques heures après, pif, pouf, paf. Et il avait le culot de le dire devant les journaux et tout. Il ne faut jamais oser dire ça. Alors, c'est comme quelqu'un qui dirait, j'ai la plus belle femme du monde. Il ne faut jamais oser dire ça. Demain, elle a le cancer, ou elle l'attrape une hépatite B et C, elle est comment? Non, il faut dire, je remercie Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Ça, c'est différent. Et si je dis, j'ai la plus belle femme du monde, c'est que je suis un orgueilleux. Je risque de dégringoler de l'escalier, hein, en me cassant la figure, avec la femme avec. Donc, émettons pas l'orgueil là où il est, l'Église n'a pas besoin d'orgueil. Comme l'épouse n'a pas besoin d'être exaltée, c'est le mari de l'épouse, c'est le mari, c'est le Christ qui doit être exalté. Ok? C'est Christ qui doit être exalté dans nos vies et dans nos églises. Alors, il est important de se comprendre que ces sept invocations sont de l'Esprit-Saint, sont sur les églises évangéliques. Chapitre 22, versets 17 à 21, reprenons. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend, disent, viens. Que celui qui a soif, vienne. Ordre de se remuer, de s'engager. Pas de s'endormir. Ça rejoint alors le thème de Jésus, dans Luc, au chapitre 22. Veillez et priez. C'est la même chose. C'est le même langage. Veillez et priez. Au verset 9, chapitre 22, verset 9. Garde-toi d'adorer les anges. On sait ce que ça donne, les anges. Hein? Un ange qui a parlé à Muhammad, le fondateur de l'islam. Hein? Garde-toi d'adorer les anges. Etc, etc. Un peu partout, hein. Je suis ton compagnon de service, de celui de tes frères, les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Gardez les paroles du livre et adorez Dieu. Voilà, nos deux jambes. Nos deux jambes, lève-la. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est un participe présent, en grec c'est venant, il est venant. Ça veut dire, ce livre ne doit pas être fermé. Ce livre ne doit pas être mis au placard. Par le vrai chrétien, il ne doit pas être mis à la poubelle. C'est notre cœur souvent qui est une poubelle, parce qu'il n'aime plus la parole, il n'aime plus le lire. Il faut se remuer, il faut lire. Il faut lire, il faut méditer, il faut aimer ce que Dieu nous dit, pour le comprendre. Quand un enfant dans une famille n'aime plus que le papa et la maman ouvrent la bouche, il ferme ses oreilles, hein. Et ils peuvent toujours courir, hein, les parents. Ils peuvent hurler, ils peuvent taper sur le derrière. Des fois, il y a des gosses, ça ne change rien. Parce que le cœur est dur et méchant. Nous n'avons pas à avoir un cœur dur et méchant quand Dieu nous parle. Avoir un cœur humble et bien disposé et ouvert. Au verset 6. Les paroles sont adressées aux prophètes, bien sûr. Chapitre 22, verset 6, hein, par le Saint-Esprit, sont adressés aux serviteurs. Aux serviteurs. Si j'écoute, si j'aime, si j'ai un cœur disposé, je suis aussi un serviteur. Je me mets au service de Christ. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans service de Christ, les amis. Arrêtez de croire, de vous laisser encore imprégner de ce faux christianisme dans lequel vous êtes né. Il n'y a pas de vrai christianisme sans service de Christ. Il n'y a pas de vrai christianisme simplement pour avoir un strapontin au ciel ou avoir dans le cimetière une croix sur sa tombe. Et d'eau bénite sur la tombe à la Toussaint. Ça ne ressemble à rien, c'est pas l'évangile. Chapitre 21. C'est ça que je dis, il faut abandonner la culture, il faut abandonner tout, comme Abraham a tout abandonné. Il était très bien à Ur en Chaldée, la société était riche, il va en Judée où c'est les cailloux. Les amis, attention. Tout au niveau archéologique prouve que les populations partaient vers Ur en Chaldée, tout. Tous les phénomènes migratoires de cette époque-là, de l'époque d'Abraham. Et lui, il fait le contraire avec sa famille. Il renie ce monde. Sortez du milieu d'eux, dit l'Apocalypse. Et faites attention. Vous ne pouvez pas gagner tout en même temps. Ou perdrez l'un ou perdrez l'autre. Au chapitre 10 de l'Apocalypse. Au chapitre 10, pendant les tribulations, il y a bien sûr des gens qui souffrent, qui ont trahi le Seigneur et qui sont là, et qui n'ont pas suivi la parole de Dieu, qui n'ont pas écouté ce que Christ voulait leur dire. Ils n'étaient pas convertis. Ils voulaient peut-être se convertir, ils voulaient peut-être être chrétiens, mais ils ne savaient pas ce que c'était qu'être baptisé en Dieu du Saint-Esprit. Et pratiquement, il a fallu qu'interviennent, durant cette période, certains... Vous savez, Moïse et Élie vont ressusciter un certain temps. Il y aura des signes pendant les tribulations qui ressemblent au fléau de l'Égypte et au fléau sur Israël, les 10 tribus du Nord, au temps d'Élie. C'est des fléaux qui tombent sur la terre pour que briser les Jézabel, les Akers du monde, briser les pharaons du monde. Et donc, il y a bien sûr... des manifestations spéciales à certains moments dans les tribulations. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est un verset 7. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Donc il y a quelque chose qui, même dans ce moment-là, Dieu agit encore. Il veut sonner de la trompette. Et la trompette en Israël, c'est quoi? Le chauffard, la corne de bélier. C'est l'appel à la repentance. Même à travers ce peuple qui vraiment a renaclé à aimer Dieu, à aimer Christ, et qui vit les tribulations, à un moment donné, il y a des appels à la repentance. Satan ne peut pas empêcher ça. Dieu appelle à la repentance. Dieu veut encore en sauver un certain nombre dans ceux-là. Mais ils se repentent, ils se convertissent, et puis quick, Satan les fait éliminer. Ceux-là vont ressusciter pour être aussi dans le royaume de Dieu. Et ça vise essentiellement beaucoup de Juifs. Mais aussi de certaines nations quand même, je pense dans les musulmans aussi. Maintenant, prenons les églises du chapitre 2 et 3. Oui. Au chapitre 2, nous avons l'église d'Éphèse, dans une ville très prospère, très riche. C'était la deuxième ville en importance dans l'Empire romain. C'était pour tout l'Orient, la ville, l'accès, si vous voulez. Et donc... Cela est d'une importance majeure. Tous les disciples ont cherché à évangéliser dans la campagne, mais aussi dans les grosses villes. Et aujourd'hui encore, on voit ça. Les missions essayent de taper là où il y a beaucoup de monde. Et on a plus de chances, si on rencontre 20 000 personnes sur 10 ans, de trouver, faire une église de 200 personnes, que si on rencontre 300 personnes en Gaume et qu'on a 3 convertis. Donc il y a un calcul, les évangélistes sont tapés sur la ville d'Éphèse et il y a des villes qui, il y a eu des églises. Effectivement. Puis de là, quand les églises sont fondées, après, on repart, on envoie. Vous voyez, par exemple, à Toulon, ils ont une antenne à Brignoles, une antenne à Siesa, et puis on fait ça un peu partout. Le monde évangélique d'origine américaine recopie un peu ce système humain. Mais ce qu'il y a, regardez, l'église d'Éphèse est fidèle dans ses actions, verset 2. Donc, elle a des écoles du dimanche, elle a des maisons de charité, elle fait certainement du basket avec les adolescents et du volley pour les amener à Christ, parce qu'elle fait des études bibliques après, etc. Elle fait certainement un accueil aux réfugiés, aux étrangers, tout. C'est un bon travail. Elle est persévérante. Il y a un culte tous les dimanches, il y a des études bibliques à droite et gauche. Elle a fondé un institut biblique, il y a des jeunes qui y vont, etc., et des vieux aussi. Et puis, vous voyez, cette église-là, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Ben oui, il y a des gens qui sont des violents, des voleurs, des bandits. Ben, l'église, non. Tu te convertis, si tu veux venir, être membre de l'église. Hein. Autrement, les choses sont assez nettes. Je ne veux pas de méchants. Je ne veux pas de gens opposés à Dieu et qui n'aiment pas. Celui-là est raciste, ben, on va encore attendre à moi qu'il soit membre. Celui-là, wow. Et quand il veut venir au culte en voiture, il fait 25 km et fait 30 fois le doigt d'honneur quand il rencontre des gens. Paf! Chaque fois qu'il est vexé par un autre qu'il rencontre. Oh ben, on va encore attendre avant de le baptiser, celui-là. Hein? Ou alors, oh ben, ils viennent. Ah oui, mais ils ne sont pas encore mariés. Oh, on ne va pas les prendre. On va attendre qu'ils se marient. Bon, pratiquement tout ça, c'est une église qui fait son boulot. Voilà. Comme elle doit le faire. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne sont pas. Donc il y avait des faux apôtres, et il y a eu des faux évangiles, il y a eu plein de textes hein, qui ressemblaient à des évangiles à cette époque-là, et pratiquement, elle prie. C'est des gens intelligents qui sont doués pour Dieu. Tu les as trouvés menteurs, tu ne veux pas de magouilles. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Sacrée qualité, hein? On aimerait bien d'être comme ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pas de relation personnelle forte avec le Seigneur Jésus. Pas de don de soi à Jésus. On a une bonne église, on se plie bien dedans. Là, on fait tous quelque chose, etc. Et Jésus, mais je ne me mets pas à genoux dans ma chambre hein, pour lui parler, hein? Mais non, j'ai rendu service à tout le monde, je suis fatigué, mais dans mon lit. Et puis, oh, on la connaît la Bible. Oh, je vais lire peut-être 5 minutes le calendrier, et puis un bouquin que le pasteur m'a prêté, et puis après, c'est pas moi qui vais quand même me mettre à lire une heure de la Bible tous les jours, quand même, j'ai autre chose à faire. C'est au pasteur à le faire. Bon, ben alors, ben, ça c'est une église qui a abandonné le Seigneur Jésus. Parce que ça a donné, après, au IIIe siècle, l'idée à Cyprien de Carthage de dire qu'il y a des prêtres. Le prêtre sait tout, il parle. Et les autres, c'est le peuple écoute. Laos, laïque, le mot laos. Voilà, voilà ce que ça a préparé cette église-là. L'église d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui. Ou, ben, il y en a un qui fait fonction, si possible, on va s'arranger pour que l'État le paye, en plus. Et qu'il a un bâtiment entretenu. Ben oui, il faut honorer celui qui sert Dieu. Mais on a confondu tout. C'est que c'est l'Église qui sert Dieu. C'est toute l'Église. Autrement, c'est une Église de menteurs. C'est ça qu'il veut dire. Voilà ce que... Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Tout le monde dans la parole. Tout le monde en train d'adorer Dieu. Tout le monde tourné vers le retour de Christ avec de l'huile dans ses lampes. Tout le monde en train de faire ce que le Seigneur lui demande dans son cœur et dans sa vie. Ça, c'est la vraie Église. Alors, donc, l'Église est tombée. Si l'Église est tombée, elle ne peut pas rester dans cet état-là. Vous voyez que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, Dieu, le Saint-Esprit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous rappelez qu'à la fin, il y a le paradis, il y a l'arbre de vie. C'est la vie éternelle, c'est Christ, l'arbre de vie. Eh bien, pas de vie avec Christ éternellement si vous ne changez pas. Et pourtant, c'est une église où ça tourne. Hein? Vous voyez pas à quel point Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Hein? C'est pour ça que dans Apocalypse 21 et 22, vous voyez chaque fois deux versets. Dehors les lâches, les menteurs, les abominables, les envoûteurs, etc. Ça commence par les menteurs. Pendant des années, je me suis dit, mais ils sont où les menteurs? Je disais ça. Je dis, c'est nous. À un moment donné, c'est nous. Et ça fait une secousse. Ça fait une secousse. Ça me fait dresser les poils. Je dis, c'est pas possible. Ouh là 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 là, il faut que je prenne les choses au sérieux. Le ronron de notre bonne conscience, hein, de notre autosatisfaction, de nos pantoufles chrétiennes. Eh oui. Et pourtant, regardez bien, hein, au verset 6, c'est une église qui avait encore une qualité formidable, elle est les œuvres d'un Nicolaïte. Elle ne s'est pas mis qu'elle est les Nicolaïtes. Elle est les actions perverses d'un Nicolaïte. Ça veut dire quoi? Un Nicolaïte, c'est quelqu'un. Ah, j'aime Dieu, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ah, j'aime le Seigneur. Mais avec mon corps, je me paye les plaisirs que je veux. Je vis sous la grâce. Mon corps, ça n'a pas trop d'importance. D'où il faut être vraiment en ordre au niveau du corps. Il faut être en ordre avec toutes les œuvres qui sont liées au corps. Dans le mariage, dans la pureté, dans ce qu'on regarde à la TV, dans de ne pas se laisser entraîner à tous les fantasmes et tous les trucs que le diable nous met dans le ciboulot. Autrement, on a un Nicolaïte qui s'ignore ou qui le sait. Donc, cette église était quand même, je trouve, très intelligente. Eh bien, si elle ne se convertit pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais retirer le chandelier de ta place. Verset 5. Et c'est arrivé. Chandelier, c'est l'église. Il y a l'islam. Allez à Éphèse, en Turquie, il y a l'islam. Alors, je vous le dis d'avance. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y avait des églises évangéliques à la fin du 1er siècle, partout. En Syrie, en Irak et tout, il y a l'islam. Parce que l'adoration de Dieu et de Christ est disparue et la fidélité à la parole. On a aimé l'establishment, l'institution église, la communauté église, c'était en soi notre fleuron. Alors que le fleuron du chrétien, c'est la croix de Christ. C'est la grâce qui coule de Christ. C'est la rencontre avec mon Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi. Et je dois toujours laisser couler son sang sur moi pour me purifier de mes souillures qui viennent d'Adam et Ève. Une église qui n'a pas comme Christ au centre n'est pas l'église que Christ veut. Voyez, vous pouvez regarder tout le nord de l'Afrique, il y avait des églises. Il y en avait en Espagne et tout. L'islam est passé. Et maintenant, il débarque et s'implante partout ici. Regardez où est l'amour de Christ dans les églises. Il n'y a plus que des bâtiments qu'une croix. Ça ne représente rien du tout, les bâtiments qu'une croix. S'il y avait vraiment des chrétiens avec Christ dans leur vie et dans l'adoration, il n'y a pas besoin d'une religion légaliste sans croix, sans sacrifice de Christ. Dans le Coran, on nie le sacrifice de Christ. Si vous aimez le Seigneur, que vous adorez le Seigneur, restez dans la parole, les puissances spirituelles de Christ empêchent, sont comme un mur à l'apostasie, au mensonge que l'esprit de Satan met dans le monde. Diavole. Et pourtant, c'est le premier message que le Saint-Esprit donne à la fin du premier siècle. Ça s'adresse aujourd'hui encore à tous les chrétiens qui ont une Bible, qui se disent évangéliques. Celui qui n'est pas dans l'adoration de Christ et dans sa parole est favorable à la disparition de l'évangile. Il est favorable à l'avenue des religions apostates. Qu'il le veuille ou non, il est complice. Deuxième église, l'église de Smyrne. Je parle de cette deuxième église encore aujourd'hui, puis j'arrête, ce sera le reste pour la fois prochaine. L'église de Smyrne, c'est encore une autre localité. Si vous allez une fois en Turquie dans un voyage organisé, Jean Wendeling de Vaslon, pasteur réformé, très, très gentil, un très brave gars, et bien fondé dans la parole, pratiquement il organise des voyages en Turquie pour visiter tous les lieux de Saint-Paul, les églises, tout ça. Si un jour vous pouvez, faites-le, avant que ça ne devienne complètement totalitaire. Apocalypse 2, 8. Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Donc le Christ, Jésus, vivant aujourd'hui. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, riche de Christ, riche de la foi, mais complètement secoué dans tous les sens par l'hostilité. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, donc il y avait des synagogues puissantes. Il y avait beaucoup de juifs influents en Turquie à cette époque-là. Il y a ça 10 ans, maintenant je ne sais plus, il y a ça 10 ans, un imam turc m'avait dit, il y a une communauté de 30 000 juifs en Turquie, c'est eux qui détiennent toutes les finances de la Turquie. On ne les virera jamais, on ne touchera jamais à eux. Autrement, la Turquie s'écroule. Et il y avait un nom spécial, et pratiquement, beaucoup sont déjà repartis en Israël. Et puis, bon, ce qui s'est passé, il y a eu des transferts, des transfuges. Les Juifs qui ont quitté la Turquie et qui ont abandonné leurs sous, c'est la qui ont été mettre leurs sous là. Les tac. Et qui ont mis main dessus. Voilà. Les gentils enfants de cœur de nos pays. Hein? Quand il y a eu la crise financière en 2008, il y en a eu une, en donné à New York. Le jour avant, je regardais le cours de la bourse et je voyais la qui retire ses fonds, purée. Et ça c'est monsieur tous les autres, ils sont dans les conseils d'administration, ils ont mis tous leurs sous en Turquie, il fallait l'accord des ministres pour faire ça, c'est des sommes énormes, hein. Et paf sur la Turquie, ben oui, parce qu'il y a des autres qui partent en Israël, ils se taillent parce qu'ils vont se faire couper un morceau un jour. Alors pratiquement, vous voyez les transfuges de ce monde, hein? Et tous ces gens-là, de la quand c'est un tédéum, ils sont là avec le roi. Hein? Ils vont à la messe, hein? Ils sont bien habillés. Hein? Ils se disent chrétiens. Hein? Alors, ça c'est l'église d'Éphèse. Hein? Ou pire. Alors, chapitre 2, verset 8. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, donc c'est des juifs de confession, extérieurement juifs, extérieurement circoncis. Et vous savez bien que Paul a dit dans Romains chapitre 2 que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur, dont la louange dans son âme vient du Saint-Esprit. Ça c'est autre chose, ça c'est le vrai juif, dit Paul. Donc ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Donc un rassemblement où Satan dirige. Alors, vous allez me dire, oh, c'est ça qui a amené à pagailler l'antisémitisme. Peut-être bien que oui, parce que les ignorants prennent toujours ce qu'il faut pour mettre des munitions dans leurs fusils. Mais, regardons bien dans Marc et Matthieu. Quand Jésus commence son ministère à Nazareth et à Capernaum, vous pouvez les trouver, les premières présences officielles dans son ministère public de Jésus, après qu'il a été au désert, après qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il y a des gens qui adorent, et ce sont des démons. Tu es le saint, tu es le véritable, le saint d'Israël. Et Jésus les fit taire, les menaça et les fit sortir. Parce que, dans tous les lieux de prière, où que vous alliez, Satan aime bien de s'y amener et de paraître pour le meilleur adorateur, afin de mener tout le monde à sa perte. On ne peut dire à Jésus qu'il est Seigneur que si on a reçu le Saint-Esprit. Paul le dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 12. On ne peut dire de Jésus qu'il est Seigneur que si on a le Saint-Esprit. Autrement qu'on ferme sa bouche, on ne le dise pas. C'est clairement ici une réalité. Il y a des personnes qui voulaient être des descendants d'Abraham et de Moïse et qui avaient la loi et qui n'aimaient pas Dieu, ni le Christ, ni personne. C'est donc une synagogue de Satan de la part de Jésus-Christ. Et c'est Satan qui l'a conduit. Conduit, cette synagogue. Je ne dis pas que tout était conduit comme ça, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Alors, dans cette ville de Smyrne, eh bien, c'était des Juifs réellement très opposés, très virulents, très actifs contre les chrétiens. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. » Et il y a eu une épreuve extrêmement grande sur ces chrétiens-là. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, tu ne dois pas craindre ta mort physique, parce que tu vas ressusciter, tu seras avec moi enlevé, quand, à la première résurrection, tu seras avec Christ sur les nuées, la tribulation aura lieu sur terre, et tu seras dans mon royaume après. Mais si tu ne crois pas, que tu abandonnes ta foi, alors, tu n'es plus avec Christ. Et alors là, tu risques de ne pas ressusciter avec les saints à la première venue de Christ, à l'enlèvement de l'Église, tu ressusciteras à la fin avec les injustes et tu iras en enfer. C'est ça la seconde mort. Tu n'auras pas la vie éternelle et tu vas aller, dans le jugement final, tu vas aller en enfer. C'est ça la seconde mort. Donc ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Fais bien attention. Il vaut mieux que tu ramasses des tribulations, il vaut mieux que tu ramasses des persécutions et que tu sois avec moi pour l'éternité. Voilà. C'est clair. Alors, où est-ce qu'on peut voir ça dans un autre texte? Jean chapitre 16, verset 33. Courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Alors, dans Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, vers la fin, il a mis... Mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. La mort n'est rien. Une persécution n'est rien. C'est un verset du chapitre 13 d'Osée, une prophétie de 8e siècle avant Jésus. Paul la reprend dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire de Christ, dans la résurrection de Christ. Quand je donne ma vie à Jésus, je suis dans la résurrection de Christ. J'appartiens au ressuscité qui, même si je ramasse des coups, je meurs, je ressusciterai, je serai éternellement avec lui. Vous voyez, il faut que ça soit clair. Les églises étaient tellement éprouvées que Dieu, Jésus lui-même, dit ça pour que tous les responsables d'église le disent aux chrétiens. Les responsables d'église, c'était des frères des autres. Ce n'était pas des curés, ça n'existait pas, je vous dis. Il a fallu attendre encore 2 siècles et demi. Voilà un message. Et c'est pour nous aussi, les amis. Aujourd'hui, nous avons reçu des messages. Ce sont tous des messages pour nous, ça. Parce que j'insiste bien, il n'y avait que des églises évangéliques à la fin du 1er siècle. Est-ce que je veux une église d'Éphèse? On est bien en église, on se plaît bien, oh, c'est magnifique l'église. Et puis, ben, le Christ, ben... il ne faut pas confondre un petit peu de sentiment pour Jésus, un petit trémolo, un petit personnage de cœur, une petite émotion, des vapeurs, avec une union à Christ, hein, les amis. Parce que, je vais vous dire, je prends un exemple. Je vis avec Marie-Hélène tous les jours. J'ai pas des vapeurs tous les jours pour Marie-Hélène, moi. J'ai pas des trémolos, des pincements de cœur, des poussées d'adrénaline pour Marie-Hélène tous les jours. Je vis avec elle. L'amour, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? De mes états d'humeur? Ça dépend de mes glandes? Ou c'est une alliance? Bon. Si à l'alliance, qu'après il y a un peu le micro-fruit, l'un d'autre chose, on le veut bien. Mais on sait très bien que c'est des bidons, un jour ça part, tout ça. Alors, dans l'amour, c'est l'alliance. On s'est choisi, on s'est aimé jusqu'au bout, pour le pire et le meilleur, comme on dit. Oui, c'est quand même, l'alliance est le meilleur. L'alliance est le meilleur. C'est là que j'éprouve ma fidélité, j'éprouve mon cœur. Mon cœur, ma justice, ma droiture, vis-à-vis de l'autre. Bon, maintenant... Je viens de parler de Marie-Hélène et moi, et puis je sors, je pars en voiture toute la journée, et puis je vais à droite et gauche, et je rencontre Elle me fait de l'effet, celle-là. Hein? Oh, oula. Oh, purée, si j'étais plus jeune. Bon, alors, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne. Il y a des... Hein? C'est de la carabine à plomb ou c'est du gros plomb de riot gun que je ramasse? Je me sens vulnérable. Je me sens vulnérable, je me sens pauvre. Et je dis, Seigneur, mais... chasse ça, au nom de Jésus, chasse ça de moi, ça n'a rien à faire ici. Là, ça n'a rien à faire ici. Mais si je le laisse durer, ça peut durer des mois en moi que ça carbure, et je deviens ma boule. Je finirai par chercher à rencontrer cette personne-là, je finirai par attraper, à m'approcher d'elle, lui faire des petits cadeaux, etc. Et puis, les phéromones, le nez, capte, avec ses 4000 terminaisons nerveuses, il capte les phéromones de madame, même si elle est mariée. Et elle capte les miens. Et puis on appelle ça le coup de foudre. Oh, j'en aime une autre. Mais non, c'est que des phéromones. C'est que des terminaisons nerveuses. Où est mon alliance avec la première femme de ma jeunesse? Où est la première alliance? Je vous donne cet exemple-là. C'est pour vous dire que quand un homme est aimé Christ, il ne faut pas toujours croire que ça va être de la grande extase et les effluves hein, du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est une doctrine qui a été donnée. Il faut avoir des effluves, il faut avoir des etc. Et quand il n'y a plus alors, qu'est-ce qu'on vient? Crac, badé, boum, le diable vient après, et je me fais avoir. Il arrive des fausses doctrines, il arrive un pasteur gourou ou n'importe quoi, je me fais entraîner. Et je ne lis plus la parole, je suis tout ce que le pasteur me dit. Je ne prie plus. Parce que les autres prient pour moi. Vous allez me dire que ça n'existe pas. Eh bien, si. Un jour, pendant 2 ans et demi à 3 ans, ou peut-être 4, il y a un couple qui est venu ici, qui connaissait bien la parole de Dieu. Et cette femme arrive une fois à la maison, à table, avec chez nous en semaine, avec une feuille. Elle me dit, Jean, tu es le pasteur ici, je voudrais bien te dire ce que je pense. Et elle me relève 18 points où je devais me corriger. Je devais changer, 18 points. Et quand elle a fini, j'ai dit, t'as raison, tu as vu clair. Il a tous dit, oui. Ben ça va. Mais est-ce que le disciple de Jésus était parfait? Est-ce que tous ceux que Jésus a engagés étaient parfaits? Ils étaient embêtés. Non. Je dis maintenant, je voudrais plus bien te poser une question. Depuis quand as-tu lu la parole de Dieu? Parce qu'elle avait fait l'Institut biblique. Hein? Cette femme a fait l'Institut biblique. Elle était femme de pasteur. Et son mari était pasteur, mais il avait dû arrêter parce qu'il n'avait rien à dire dans la maison et dans l'église. Donc le pasteur, en fin de compte, il a été nettoyé des toilettes, des WC, dans les arrêts le long des autoroutes. Et puis après, il a travaillé chez un marchand de cercueils, il a fabriqué des menuisiers, de son jeune métier, il a fabriqué des cercueils. Pratiquement, cette femme le dirigeait, et pratiquement, je lui dis, mais depuis quand as-tu lu la Bible? Parce que j'ai vu qu'elle avait un esprit de jugement sur moi. Et comment pouvons-nous construire une relation dans une église avec des esprits de jugement? Hein? Il n'en reste plus. Hein? On peut tous le faire. Hein? C'est Sarajevo spirituel. Hein? La Syrie. Alors, pratiquement, ce qui se passe, elle me dit, oh, mais ça fait des années que je n'ai pas lu. Mais comme ça, clairement, je la connais tellement que j'ai plus besoin de la lire. Mais avec un aplomb. Un ami avec un aplomb. Je dis, écoute, je ne veux pas dire son prénom. Je dis, pour ça, ça me démange. Je vais te dire une chose. Moi, ça, je ne la lis pas de 3 jours, je suis mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne suis plus en communion avec Jésus. Et si je reste 2 semaines sans la lire, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Et elle ne m'a pas répondu, ben, je vais me remettre en question, non? Un peu après, elle me dit que je ne viendrai plus au culte. Ben oui, parce que je vais aider l'évêque de Verdun a organisé un voyage à Lourdes. Elle a été toute sa vie évangélique, femme de pasteur, qui organise des voyages à Lourdes pour pour voir Marie, sans doute, des apparitions, et pour les guérisons, sans doute. Et puis un peu après, 2 ans après, qu'est-ce qu'on apprend? Les amis, elle divorce. Alors, je voudrais bien vous prendre ce cas comme exemple. Elle m'avait fait la leçon sur 18 points et elle m'avait demandé ici que tout le monde puisse parler en langue et qu'il y ait de la musique, des chants et que tout le monde puisse prier ensemble. Oui, parce qu'il y en a qui sont timides, il y en a qui ne savent pas prier. Si on chante et qu'on prie tous en même temps, comme ça ceux qui ont peur peuvent prier. Et ils auront tous envie de prier. Et elle m'avait dit ceci. Et puis même, il y en a qui prieront en langue. Et bon, j'ai dit non, on priera tous dans l'ordre, un après l'autre. Soit dans son cœur, soit en silence. Et on pourra entendre la prière de l'autre et dire Amen, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette personne? Elle voulait que Satan rentre dans l'Église, qu'on ne lise plus la parole de Dieu, qu'on n'adore plus Dieu, et qu'on soit dans les dons des langues, qu'on soit dans les manifestations, les tremblements ensemble, et le bazar. Alors il ne manquait plus que la batterie, la guitare électrique et tout le bazar. Et quoi? Après, une razzia dans les couples, de l'impureté partout, et une bonne caisse remplie d'argent dans l'église. Je ne veux pas ça, moi. Je ne vois pas que c'est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que cette femme est venue ici? Elle avait fait des dégâts autre part de la même façon. Elle est arrivée ici, elle s'est cassée les dents. Et elle s'est pas remise en question. Parce qu'elle avait déjà perdu tout esprit de repentance. Pourquoi est-ce qu'elle avait perdu tout esprit de repentance et de conversion? Parce qu'elle n'adorait plus Dieu. Elle s'adorait elle-même. Elle adorait toutes ses impressions, toutes ses exaltations mystiques et tout ça. Et elle n'avait plus la fréquentation régulière de la parole de Dieu. C'est plus Dieu qui lui parlait. C'est elle qui se parlait à elle-même. Et si c'est pas elle qui se parlait à elle-même, c'est le diable qui parlait à elle. Pour détruire les églises. Ça s'appelle l'esprit de Jézabel. On verra ça dans une autre église. C'est, si vous voulez déjà lire à l'avance, les 2 chapitres, chapitre 2 et 3, lisez-les bien, c'est l'église de Thyatire, Jézabel. Est-ce que je me moque de la personne en parlant comme ça? Eh bien, je vais vous dire non. J'en suis triste. Parce que nous, on aimait bien. On aimait bien, on aurait bien voulu qu'elle soit sérieuse avec le Seigneur et sa parole. Si j'en parle, c'est pour vous dire que ça existe. Si je vous en parle, c'est pour que vous ne tombiez pas là-dedans. On va prier, on va demander au Seigneur de rester fidèle et d'avoir en nous une œuvre puissante de l'Esprit Saint. Puissante, pas l'œuvre du diable, qui paraît être celle du Saint-Esprit.